RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour vous accompagner tout au long d'une nouvelle semaine, du lundi au vendredi. C'est le rendez-vous à 18h10 jusqu'à 19h, le 18-19 en Champagne-Ardenne. On est ce soir avec notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares. Mélissa, bonjour.
Bonsoir.
Vous avez passé un bon week-end ?
Un excellent week-end.
On aurait aimé que vous nous rameniez le soleil dans les cartons pour cette nouvelle semaine, mais a priori ça n'en prend pas le chemin.
Moi aussi j'aurais bien aimé, mais malheureusement non.
Malheureusement non, on s'en contentera. Jean-Pierre Benoît sera avec nous aussi dans quelques instants, notamment pour interroger un maire qui nous parle. Yannick Lombard de Lannoy-sur-Vence sera notre invité aujourd'hui. Nous serons aussi avec Bernard Maloiseau qui présentera l'ouverture d'une antenne France Parkinson à Vitry-les-Reims ce mercredi. Au programme dans quelques instants, Jean-François Boulanger, l'histoire d'une décolonisation ratée en revenant sur l'épisode de Mayotte et les Comores d'une manière générale. On ira faire un tour du côté du parc naturel régional de la Montagne de Reims avec Émilie Renoir-Sibler à propos du village des créateurs et artisans d'art à Cormicy. C'est un rendez-vous que l'on vous donne dès maintenant pour le dimanche 7 avril, mais on peut cocher déjà dans l'agenda ce moment fantastique. Et puis nous serons aussi avec Sébastien Moucheron, Grand Innov Plus, fondateur de l'agence d'innovation du Grand Est. Ça sera en toute fin d'émission. Voilà pour le sommaire ce lundi à 18h12. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de partir pour la chronique. Regard sur le monde avec Jean-François Boulanger cette semaine. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Et vous nous emmenez à Mayotte, et même un peu plus, Mayotte et les Comores, l'histoire d'une décolonisation ratée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient de se rendre sur l'île de Mayotte pour y annoncer que le gouvernement allait proposer la suppression du droit du sol dans ce qui est depuis 2011 le 101e département français. Ces annonces ont été faites le dimanche 11 février dernier. Selon vous, c'est le dernier épisode en date d'une décolonisation ratée?
Oui, parce que au cœur de cette question complexe qu'est celle de Mayotte, il y a d'abord celle des rapports entre l'île de Mayotte et les autres îles de l'archipel des Comores, et de la manière dont la puissance coloniale, la France en l'occurrence, a réglé, il faut mettre beaucoup de guillemets autour du mot réglé, cette question lors de l'accession de l'archipel à l'indépendance en 1974.
Pouvez-vous d'abord nous présenter peut-être cet archipel, Jean-François, et la manière dont la France s'y est implantée ?
Oui, c'est important parce que nous sommes dans un archipel qui est composé de 4 îles, pas très éloignées les unes des autres, qui se trouvent donc dans le canal du Mozambique. C'est le bras de mer qui est compris entre Madagascar et le continent africain. C'est-à-dire que c'est un lieu de passage stratégique pour tous les bateaux qui passent par le Cap de Bonne-Espérance pour aller d'Europe en Asie. Aujourd'hui, c'est par exemple des pétroliers qui peuvent venir du Moyen-Orient et passer par le Cap pour éviter la mer Rouge et le canal de Suez. Et à ce titre, la zone a toujours intéressé les grandes puissances européennes à partir du moment où elles ont eu les moyens d'y envoyer une flotte. Et c'est ainsi que Mayotte a été occupée par la France en 1841 au détriment des Anglais qui convoitaient également l'île. Et en 1886, la France a étendu son protectorat sur les 3 autres îles de l'archipel, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Et l'archipel a d'abord été rattaché dans une seule structure administrative coloniale à l'île de Madagascar, également française, puis il est devenu un territoire d'outre-mer, ceci en 1946.
À quel moment Mayotte se distingue-t-elle des autres îles des Comores ?
Alors, c'est difficile de dire quand commence le différend entre Mayotte et les autres îles. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des années 50, la majorité des élus à l'Assemblée territoriale du territoire d'outre-mer, du TOM, décide de transférer le chef-lieu de Mayotte à Moroni sur la Grande Comore, par hostilité donc à Mayotte. Et Moroni est aujourd'hui la capitale des Comores indépendantes.
Et quand le territoire d'outre-mer accepte-t-il à l'indépendance ?
Alors en 1974, c'est-à-dire que c'est tardif, si on prend la décolonisation française de l'Afrique, on s'aperçoit qu'elle prend fin en 1960 pour l'Afrique noire et en 1962 pour l'Algérie. Et pourtant, il y a encore 2 pays qui restent colonies françaises ou territoires d'outre-mer français jusque dans les années 70. Ce sont les Comores et Djibouti, qui sera indépendant en 1977. Le point commun de ces 2 territoires, c'est d'abord leur superficie limitée et une population relativement peu nombreuse, ce que certains ont appelé les confettis de l'Empire, ce qu'il en reste après sa disparition, et ensuite, une position stratégique susceptible d'intéresser la marine française, voire d'autres marines. Par exemple, il y a une base navale jusqu'à aujourd'hui à Djibouti, qui d'ailleurs accueille également une base chinoise et une base américaine. Et donc, le référendum d'autodétermination aux Comores a été organisé en 1974, un peu sous la pression des Nations Unies, et lors de ce scrutin, trois îles, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli, ont voté oui à l'indépendance à 94%, alors que la quatrième, Mayotte, a voté non à 64%. Et donc, s'est posée aux autorités françaises une question complexe. Devait-elle respecter la volonté des électeurs de Mayotte, les Mahorais, de demeurer français, ou, au contraire, prendre en compte le principe fondateur de la décolonisation de l'Afrique selon lequel le respect des frontières issues de la décolonisation passe avant tout, et constater en conséquence que les Comores ayant très majoritairement voté pour l'indépendance, il convenait de respecter le vote émis à l'échelle de l'archipel.
La France a donc choisi la première solution, si l'on vous comprend bien, Jean-François.
Eh oui, effectivement. Le gouvernement a décidé de maintenir la domination française sur Mayotte. Pour comprendre la décision du gouvernement, outre le choix d'une partie importante de la population mahoraise, il y a aussi le fait que nous sommes à l'époque en pleine guerre froide et l'idée en France est d'implanter à Mayotte une base militaire navale dotée d'un port en eau profonde pour accueillir les navires de guerre français dans cette région. Projet qui ne verra jamais le jour, mais depuis cette date-là, la France est régulièrement condamnée par le comité de décolonisation de l'ONU et l'Union africaine considère ce territoire, Mayotte, comme étant occupé par une puissance étrangère, la France, ce qui, il faut bien l'avouer, n'a pas beaucoup de conséquences directes et concrètes. Mais justement, cette souveraineté française demeure contestée également par la République fédérale islamique des Comores, donc l'État voisin et indépendant depuis 1974, dans le prolongement des résolutions de l'ONU. Et pour les autorités de Moroni, la capitale des Comores, Mayotte fait partie de leur territoire. Les Comoriens qui s'y rendent doivent s'y considérer, si je puis dire, comme chez eux. Et là, vous voyez le problème apparaître.
Donc Mayotte reste un territoire d'outre-mer français. Comment devient-elle département français ?
Voilà. Alors, elle est d'abord tôme, elle reste tôme. Et puis, très vite, les élus locaux qui ont voté pour le maintien de la présence française vont réclamer le statut de département. Alors ils le font avec obstination et acharnement, si je puis dire. En 2000 et en 2009, des référendums plébiscitent cette perspective qui avait déjà été concrétisée par un vote en 1976. Et d'ailleurs, l'écho de cette aspiration, c'est une inscription qui trône sur le port de Mamoudzou, la capitale de Mayotte, qui dit « Mayotte est française et le restera à jamais ». Et donc Nicolas Sarkozy a donné satisfaction à cette revendication des Mahorais en 2008, et donc on décide que Mayotte va devenir département français, et la décision entre en application à partir de 2011. Le statut départemental engagé prévoyant une période de transition de 25 ans en vue d'une mise à niveau de Mayotte.
Comment cette départementalisation s'est-elle effectuée très rapidement, Jean-François Boulanger ?
Alors, on a bien vu que ça n'allait pas très bien, parce que dès le premier jour, effectivement, il y a eu un souci. L'Assemblée territoriale n'a pas pu élire le président du Conseil général, parce que la droite a boycotté le scrutin. Le ministre des départements d'outre-mer a dû rester à la Réunion en attendant qu'un président élu soit en mesure de l'accueillir. Et en fait, on voit bien que c'est très compliqué. Un exemple typique, c'est l'établissement d'un état civil, jusqu'alors inexistant, une opération très lourde qui a entraîné des difficultés significatives dans l'établissement des listes électorales. Un certain nombre d'électeurs, à ce moment-là, n'avaient pu retrouver leur nom sur le liste et se sont vus privés du droit de vote. Donc, un certain nombre de résultats ont été très serrés. On mesure les difficultés à venir et les risques d'annulation et d'élections partielles, dont l'île, d'ailleurs, est coutumière. Et puis, en matière de droit, la justice cadiale, c'est-à-dire donnée par des cadis, des magistrats musulmans, mêle le droit musulman et coutumier. Donc, elle disparaît avec le statut départemental, du moins sur le papier. Mais la justice républicaine est loin d'être en état de traiter l'ensemble des points qui sont maintenant de son ressort. De même, la scolarisation de tous les enfants reste un défi assez largement à relever. La mise en place de l'égalité sociale a été programmée sur 25 ans. En 2012, on a mis en place un RSA qui, en fait, ne se situe qu'au quart de son niveau métropolitain.
Plus de 10 ans après le début de sa mise en œuvre, cette départementalisation est-elle un succès, Jean-François Boulanger ?
Les avis divergent sur la question. Sur place, les habitants jugent que les efforts sont insuffisants pour rapprocher la situation de Mayotte de celle de la métropole, en particulier en matière de santé et d'éducation. Par contre, ils ont, ces efforts, accru l'écart avec le reste des Comores, et donc la pression migratoire de populations qui partagent une histoire commune avec Mayotte, la même langue, des pratiques voisines de l'islam et souvent des relations familiales, font que, effectivement, ces gens-là ont tendance à se diriger vers Mayotte parce que l'île fait figure d'îlot de prospérité régionale. Et elle connaît depuis des années une poussée démographique qui s'est accélérée justement avec l'augmentation, départementalisation. C'est un schéma atypique au sein de l'espace français. En 1974, Mayotte comptait moins de 50 000 habitants. Elle en compte aujourd'hui 270 000. C'est-à-dire c'est un département qui a une densité au kilomètre carré de 700 habitants, juste la deuxième de France après l'île de France. Et dans ces conditions, la France a été amenée sans cesse à inventer des règles spécifiques qui vont à l'encontre des règles de droit qui s'appliquent dans le reste des départements français, et cela concerne maintenant le droit du sol.
Qu'est-ce que l'on doit en conclure ?
Eh bien, on doit en conclure que justement les circonstances de la décolonisation des Comores continuent de peser sur le département. En créant ce département, on a tout simplement oublié son environnement géographique. Il était impensable de penser conduire Mayotte vers sa prospérité en laissant les îles voisines dans la misère. Et tout se passe comme si la très forte mobilisation locale pour une évolution institutionnelle vers le département avait servi à cacher en fait la réalité, c'est-à-dire l'absence d'une politique résolue de développement local et régional, et que l'on ait mis la charrue des institutions avant les bœufs de la production et de l'économie.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur Mayotte et les Comores, l'histoire d'une décolonisation ratée. On vous dit à très bientôt pour regarder sur le monde.
À très
bientôt. À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et à 18h22 sur RCF en région, ce soir, le maire qui nous parle est un maire des villages des crêtes pré-ardennaises. Jannick Lombard de Launois-sur-Vence est en ligne avec Jean-Pierre.
Jannick Lombard, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous et merci de répondre à chaud à notre invitation, parce que à Launois-sur-Vence, on vous avait présenté il y a quelques semaines. On va quand même rappeler quand même combien d'habitants à Launois tous les Ardennais connaissent. On connaît un peu moins dans la Marne, mais encore que, parce qu'on connaît le relais des postes, on va en parler tout à l'heure. Launois-sur-Vence, c'est combien d'habitants, monsieur Lombard?
Alors c'est 700 habitants, hein, constant, hein, voilà, 700 habitants, petite commune située entre Rethel et Charleville, près de Poitéron, village étape.
Village étape et puis village qui est connu par beaucoup d'Ardennais, parce que dans l'histoire, il y avait à Launois ce qu'on appelle un relais de poste, et c'est là que les diligences venaient. Est-ce que c'est bien ça, Jannick Lombard?
Tout à fait, vous connaissez parfaitement l'histoire. Voilà, tout à fait. Hein. Le relais de poste aux chevaux qui datait du XVIIe siècle, hein. C'était à cette époque-là où les diligences s'arrêtaient, c'était la route de Paris, hein. Les diligences s'arrêtaient et les voyageurs pour se restaurer, passer la nuit, voilà. Donc c'est un site très remarquable puisque c'était une véritable cathédrale de poutre puisque les bâtiments sont restés tels que, hein. Il n'y en a plus que deux en France de relais de poste comme
le nôtre.
Authentique, tout à fait. Actuellement, c'est passé dans le giron de la communauté de communes, parce que c'est un site quand même qui coûte très cher à entretenir. Donc la commune ne pouvait pas prendre toute seule à sa charge, et c'est la communauté de communes des crêtes pré-ardennaises qui s'occupait de la gestion. Actuellement, il est en restauration sur une bonne partie, le corps du logis, hein, qui va devenir une partie musée, une partie accueil pour l'office de tourisme qui va arriver dedans. Il y aura tout un cheminement qui sera fait à l'intérieur de façon à pouvoir retracer l'historique et puis voir un peu le vécu du relais. Et le relais actuellement est remis en activité plus ou moins, puisque on a l'association des sabots du relais qui s'est installée au sein du relais, qui remettent en valeur le cheval ardennais. Tous les visiteurs qui viennent, bon c'est quand même à peu près 60 000 visiteurs par an, hein, qui viennent dans ce relais, ont la chance de voir des chevaux ardennais au travail, puisque l'association s'occupe de former ses chevaux pour des particuliers, aussi bien pour faire le bûcheronnage, tout ça, et fait même des formations maintenant de palefreniers, de conducteurs de diligence éventuellement auprès des centres de formation.
Ce qui est formidable, Jannick Lombard, c'est que lorsqu'on entre dans ce relais de poste à chevaux, à Launois, il y a une petite plaque tout en haut qui indique, c'est authentique, mais c'est impressionnant, moi ça m'avait toujours impressionné, même que j'étais très jeune à l'époque, c'est de voir que vous indiquiez sur ce panneau le temps qu'il fallait pour aller à Paris, le temps qu'il fallait pour aller à Reims, enfin, c'était des diligences. Alors combien ça se mesurait en jours, hein, d'ailleurs?
Oui, c'était en jour. Oui, il fallait plusieurs jours pour faire le cheminement. Tout à fait. Bon, je ne l'ai plus en mémoire.
Mais alors, extraordinaire, c'est quand on voit aujourd'hui où est implanté l'Aunois, à quelques kilomètres, enfin, ça jouxte, pas très loin de la 34, pas très loin de Voynic, d'une certaine façon. Ça veut dire que toutes les voies de communication routière au cours de l'histoire, ils sont passés dans le même sillon. Vous avez la 34. Aujourd'hui, avec Voynic, vous aviez en parallèle la route nationale 51 qui était connue de tout le monde. Et puis, vous aviez une vieille route de Paris. Mais tous, ils sont parallèles. Et donc, les diligences, elles passaient d'une certaine façon aussi un peu par là.
Tout à fait. Et même dans l'Antiquité, parce qu'on remonte aux Romains, nous avons la voie romaine qui passe à quelques centaines de mètres du relais des diligences. Donc, vous voyez, ça a toujours été un axe principal, primordial pour la Belgique, pour Anvers, pour toutes ces choses-là, quoi.
Et alors, c'est là qu'il y avait justement le courrier qui était mis ici dans ce relais ou qui était transporté ensuite. Là, c'était, j'allais dire, la pause. Et en fait, l'Aunois est demeuré une ville, un bourg qui est très attaché à son histoire. Et puis aussi au fait qu'il est au carrefour de beaucoup de choses. C'est là, bon, il y a des gîtes, il y a des restaurants réputés, il y a aussi pas très loin la fameuse bière Ardouenne. Enfin, je veux dire,
Tout à fait. C'est vrai que on est fiers de notre patrimoine historique. On essaye de le mettre en valeur. C'est pour ça qu'on essaye de mesurer tout. Actuellement, bon, on vient de finir l'assainissement. Là, on remet en valeur toutes les rues. On est en train de faire la réfection de toutes les rues. On s'est inscrit pour être dans la labellisation des villages étapes parce que là, je suis en train de faire construire, notre équipe fait construire une aire de camping-car à la sortie du village puisque c'est 600 camping-cars qui passent par an. On a une vocation et le monde du cheval attire aussi des gens. L'Aunois, avant, il y a quelques années, était la capitale de la brocante. Hein, ça a toujours été, pendant des années et des années, c'était une capitale, c'était les brocanteurs qui venaient. Voilà, donc il y a toujours eu un attrait pour ce village et qu'on essaye de remettre en valeur justement régulièrement.
Et pendant l'année, Jeannick Lombard, il y a des rencontres culinaires, il y a des rencontres autour des livres. Et le relais de poste est un peu, j'allais dire, un écrin dans lequel on aime venir.
Déjà, c'est un site naturel qui s'y prête. Quand on voit la halle qui est immense, hein, avec ses poutres, c'est une cathédrale en fin de compte. Hein, bon, elle s'y prête. On fait le festival de l'imaginaire, on fait la maison du Père Noël, on fait beaucoup de choses. On fait les marchés, tous les marchés mensuels et se font là. Les rencontres des associations maintenant se font ici. À chaque fois qu'on peut, on peut créer quelque chose. D'ailleurs, l'office culturel des Crêtes qui gère. Beaucoup de manifestations se font ici et quand on a des possibilités, beaucoup de mariages se font aussi dans ce site remarquable, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un site qui est très occupé, qui plus est dans le monde du cheval, là, ils viennent de faire une piste justement pour ces chevaux-là, pour faire des compétitions éventuelles ultérieurement. Donc voilà, c'est vraiment un site qui est mis en valeur, quoi.
Alors on en parle bien sûr au cœur de l'hiver, mais même l'hiver, et les Ardennes sont belles et on peut, vous qui connaissez les Ardennes par cœur, Jeannick Lombard, moi je les connais moins que vous, mais je les connais un petit peu quand même. C'est vrai qu'on peut conseiller, non seulement aux Ardennais, mais ils savent, mais aux Rémois, lorsqu'ils viennent dans les Ardennes, de quitter quand même un peu la 34 et puis de prendre ces chemins de traverse en prenant la direction de l'Aunois, de s'arrêter à l'Aunois dans ce gîte étape, dans ce relais des chevaux, et puis de prendre l'ancienne route de Paris qui va à Charleville-Mézières, voilà, et qui passe. Alors ça descend, ça monte, on prend la direction de Gendin, on prend la direction de Warnécourt, etc. Et là, on a vraiment une découverte exceptionnelle, mais il faut savoir quitter l'autoroute A34.
la vieille route, effectivement, on appelle ça les bornes, les fonds de Bordeuil, où dans le temps, les attaques de diligence se faisaient par rapport à...
Attaques de diligence, mais c'est formidable. Ça. Merci Yannick
Lombard. La vieille route est remarquable.
Merci Yannick Lombard d'avoir été avec nous, maire de Launois dans les Ardennes. Au revoir monsieur le maire et à bientôt sur RCF.
Allez, au revoir et toujours merci.
Et en attendant de retrouver un nouveau maire demain à 18h20 dans le magazine régional, tout de suite ce lundi, c'est le journal régional. Avec les titres de ce 19 février, pour la troisième année consécutive, le Forum des métiers de l'uniforme fait son retour demain à Épernay. Une quinzaine de corps de métiers viendront à la rencontre du grand public. La nuit de l'orientation et de l'étudiant fera son retour à Charleville-Mézières, mais c'est mercredi. Plus de 80 formations et entreprises seront présentes.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Demain, à Épernay, l'agence locale France Travail, la Maison de l'Emploi et des Métiers et la Mission Locale co-organisent pour la troisième année consécutive le Forum des Métiers de l'Uniforme. Pour Aurélie Henry, chargée de projet à la Maison de l'Emploi et des Métiers, il y a des vrais besoins de recrutement, notamment à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Avec l'approche des JO, il y aura pour la première fois un stand spécifique sur vraiment les besoins en sécurité. Après, effectivement, c'est toujours des métiers de l'uniforme, notamment les corps de l'armée, voilà, qui attirent quand même notamment les publics les plus jeunes. Et après, sur les besoins en sécurité, depuis le Covid, on a pu voir qu'il y avait des besoins voilà, assez réguliers, puisqu'ils sont présents dans différents établissements, différentes manifestations, les agents de sécurité. Et c'est vrai qu'il y a des besoins réguliers.
Plus d'une dizaine de partenaires seront présents.
On va retrouver les corps de l'armée habituels, donc la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air également. On va retrouver les pompiers. Il y aura la police municipale, la police nationale, APS, l'agence de sécurité, la gendarmerie, le SMV. Et pour la première fois, on va avoir la Légion étrangère, la protection civile, les douanes et également le service national universel qui viennent enrichir ce forum.
Le forum s'adresse à tous, au public scolaire, aux étudiants, aux personnes en recherche d'emploi et aux salariés en reconversion professionnelle. Aurélie Henry nous présente les objectifs de ce rendez-vous.
Le premier, c'est de découvrir les métiers, de pouvoir échanger avec des professionnels et puis également postuler pour des stages puisque la police municipale prenne des stagiaires en troisième, tout comme la gendarmerie, mais également postuler sur des offres d'emploi auprès d'APS ou de France Travail.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Le forum des métiers de l'uniforme aura lieu donc demain, mardi, de 13h30 à 17h à la mairie de quartier 1 avenue Middelkerk à Épernay, une action soutenue par la région Grand Est. Dans le but de maintenir la pression à l'approche du Salon international de l'agriculture de Paris, le syndicat des jeunes agriculteurs de la Marne a déversé du fumier devant la préfecture à Châlons-en-Champagne, mais aussi devant la sous-préfecture à Reims ce lundi matin. Des manifestations d'agriculteurs ont également eu lieu du côté de Charleville-Mézières tout au long de la journée. D'ailleurs, il y a encore quelques minutes, la rocade de Charleville était bloquée par des tracteurs qui provoquaient donc des nouveaux blocages et des ralentissements. Le lycée Oémichène de Châlons-en-Champagne envisage de fermer deux enseignements de spécialité dès l'année prochaine. Des fermetures qui suscitent la colère dans l'équipe enseignante. Une grève est prévue demain, mardi, de même dans l'Aube, suite à l'annonce d'une fermeture de classe maternelle sur le regroupement pédagogique intercommunal de Mergey-Saint-Benoît-sur-Seine-Villasserre. Une manifestation a eu lieu vers 17h devant l'école de Villasserre. Un autre rendez-vous à cocher dans l'agenda ce mercredi de 13h à 21h au Parc des Expositions de Charleville-Mézières, Ardennes Métropole et la CCI Marne-Ardennes co-organisent la nuit de l'orientation et de l'étudiant. Plus de 80 formations et entreprises seront représentées à l'occasion de cette journée exceptionnelle qui s'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, mais aussi aux adultes en quête de reconversion. Guillaume Maréchal, vice-président d'Ardennes Métropole.
L'objectif de cette nuit de l'orientation et de l'étudiant, c'est d'informer sur l'ensemble des formations qui existent sur le territoire de Charleville-Mézières et d'Ardennes Métropole, les formations post-bac et les formations dans l'enseignement supérieur. On voit d'année en année cet événement grossir, grandir. Ça montre aussi que les formations et l'enseignement supérieur bougent sur Charleville-Mézières. On voit de nouvelles formations arriver. Et c'est tant mieux parce que l'objectif, c'est que les jeunes Ardennais puissent se former dans les Ardennes et puissent se former dans des formations qui ont derrière des débouchés pour l'emploi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se former dans les Ardennes et travailler dans les Ardennes par la suite.
Le rôle de la CCI aussi est capital dans ce genre d'événement. Aubin Janteur, vice-président de la CCI Marne-Ardennes.
Une CCI comme la nôtre, on est vraiment un point de convergence à la fois entre le monde des entreprises qu'on représente et le monde de la formation. On oublie parfois qu'en fait les CCI sont le deuxième formateur en France après l'éducation nationale. Et sur le territoire Marne-Ardennes, en fait, il y a plusieurs aspects. Donc il y a les aspects, par exemple, grandes écoles qu'on connaît bien, donc Néoma, anciennement Sup de Corinthe, INEMA, et aussi les CFA, notamment les CFA Interpro Alméa, qui sont le plus gros CFA de la région Grand Est et qui est implanté dans la Marne et dans les Ardennes, qui offre un panel de formation énorme localisé sur le territoire. Et ça, ce sont des organisations qui sont en lien très proche, soit historiquement, ce sont des établissements qui ont été créés ou coportés par les établissements consulaires.
Entrée libre, restauration sur place, chaque année 2000 visiteurs poussent les portes du parc des expositions de Charleville-Mézières, faisant ainsi de ce moment un rendez-vous incontournable de l'orientation dans les Ardennes, avec un objectif pour la rentrée de septembre 2024, passer le cap des 3000 étudiants à Charleville. Sport, les clubs de basket marno-ardennais n'étaient pas en réussite ce week-end. Le Champagne Basket court toujours après le premier titre de son histoire, après s'être incliné après prolongation en finale de Leaders Cup Pro-B face à Vichy Clermont hier, 97-90. L'étoile de Charleville est tombée en huitième de finale du trophée Coupe de France face à Pays de Fougères, 72-81. En Ligue féminine de basket, les Flammes Carolo ont perdu sur le parquet de Landerneau. Malgré tout, elles conservent leur septième place au classement. En football, tout n'a pas été rose non plus. Les féminines du Stade de Reims ont été battues samedi à Saint-Étienne 4-3 lors de la 15e journée de D1 Arkema. Elles restent 5e. En Ligue 1, l'équipe masculine du Stade de Reims a dû se contenter d'un match nul, un but partout face à Lens et garde la 8e place du classement. Samedi soir, en Ligue 2, 3 s'est donné de l'air en dominant Grenoble 3-1. L'Estac est 15e. Avec 30 points, enfin en volet, la 21e journée de Liga a souri à Chaumont qui s'est imposé 3-7-1 face à 7. Sans surprise, Léo Marnet conserve la tête du classement. Avant de refermer ce journal, place à la météo avec notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares, toujours là, toujours fidèle au poste. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Quelles sont les tendances en Champagne-Ardenne pour ce mardi ?
Mardi, une météo triste, soit pas de changement depuis la semaine dernière. Le matin, dans l'ensemble des départements de la Champagne-Ardenne, des nuages seront attendus dans le ciel. Mais seulement dans quelques villes, de la brume sera présente à Charleville-Mézières dans les Ardennes et à Saint-Dizier, à Langres et à Saint-Dizier et à Langres en Haute-Marne. Les températures attendues seront au minimum 6 degrés et au maximum 8 degrés. L'après-midi, pas de changement sauf pour les villes que nous avons citées avant, qui sont Charleville-Mézières dans les Ardennes et à Saint-Dizier et à Langres en Haute-Marne. Le mercure grimpera au maximum jusqu'à 11 degrés. Demain, nous fêterons les aimés. Nous souhaitons une bonne fête à tous.
Merci Mélissa. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et on part au parc naturel de la montagne de Reims qui prépare ses prochaines animations. Pour le moment, la maison du parc à Pourcy est fermée au public, mais à l'intérieur, les chargés de mission préparent les prochaines activités. La saison débutera le dimanche 7 avril à Cormicy. Et ça tombe bien, Émilie Renoir-Sibler va nous parler du village des créateurs et artisans d'art au micro de Gérald Gaillet.
Émilie Renoir-Sibler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission culture au parc naturel régional de la montagne de Reims. Et malgré que nous sommes déjà courant février, vous êtes déjà en train de préparer une manifestation qui va se dérouler début avril.
Oui, c'est ça. Le parc organise la deuxième édition du Village des Créateurs. C'est une marché aux créateurs et artisans locaux qui aura lieu le dimanche 7 avril à la salle des fêtes de Chamery.
Chamery, ça se trouve où ?
Un petit village qui est à une dizaine de kilomètres de Reims sur le territoire du parc.
Voilà. Et le parc, il correspond à quelle superficie ?
Alors, c'est 65 communes. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 50 000 hectares, à peu près.
Ouais.
Donc, c'est un territoire assez vaste, avec beaucoup d'animation, beaucoup de talents artistiques et culturels. Et donc, c'est l'objet de cette manifestation.
Et donc, les participants à ce village, ils font partie des communes du parc ?
Pour certains, oui. On a un certain nombre qui sont ici du territoire, notamment des créateurs qui sont adhérents à l'association Les Créateurs du Vignoble et d'ailleurs, qui est notre partenaire principal. Mais on a aussi des créateurs qui viennent d'autour du territoire, plus largement du Triangle Marnais.
Quand vous appelez le Triangle Marnais, selon où on se trouve, il y a des triangles.
C'est entre, allez, on va dire, entre Reims, Épernay et Chalon.
D'accord. Et qu'est-ce qui va se dérouler ce jour du 7 avril ?
C'est tout simplement un marché avec une trentaine de créateurs qui sont soit issus du territoire, soit des communes aux alentours. Et donc, ils vont proposer leurs produits à la vente. Il y aura probablement des démonstrations de certains créateurs et artisans d'art, des ateliers pour enfants. Et puis, on peut se restaurer sur place avec stand bar à champagne ou food truck, par exemple.
Par exemple. Et si on compare par rapport à l'an passé ?
Alors cette année, on organise un petit peu différemment pour cette deuxième édition. On fait un seul lieu, un seul jour. L'année dernière, on avait fait sur deux lieux différents et sur le samedi après-midi et le dimanche. Voilà. Mais là, on a décidé de recentrer plus sur une seule grande salle et une seule journée.
On peut toujours s'inscrire ou c'est clos ?
C'est clos. J'ai eu beaucoup de demandes, donc je pense que je ne pourrais pas prendre tous ceux qui ont candidaté. Par contre, voilà, l'entrée est gratuite pour le grand public.
L'entrée est gratuite pour le grand public et c'est donc l'ouverture de ?
De 10h à 18h, le 7 avril.
Donc le parc, qu'est-ce qu'il organise d'autre comme manifestation dans les semaines et mois à venir ?
Ben, on a notre traditionnelle fête de la pomme qui aura lieu au mois d'octobre. On fête les 10 ans cette année. On a des manifestations régulières. Alors on peut avoir des spectacles. Par exemple, il y aura un spectacle au mois de mai sur Val-de-Livre, un spectacle de cirque contemporain. On a régulièrement des animations nature, sur la faune, la flore, mais aussi sur le patrimoine des communes. Voilà, il faut aller voir sur le site internet du parc avec l'agenda, il y a tout est inscrit au fur et à mesure.
Et alors, le site, il a un nom particulier ?
Alors, c'est www.montagnedereims.fr.
Tout simplement. Et un numéro de téléphone, un standard ?
Alors, c'est le 03 26 59 44 44. Et puis sinon, on est assez actifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
En même temps que d'être chargé de mission culture, on anime aussi les réseaux.
Tout à fait. Voilà, tous les agents du parc, tous dans leur domaine, proposent régulièrement des animations et grand public pour mieux comprendre le territoire et ainsi le protéger de la meilleure des façons.
Alors ce parc, on peut le visiter ?
C'est un parc, c'est 65 communes, donc vous pouvez rentrer et sortir autant que vous le souhaitez. Après, nous, on a la maison du parc, qui est le lieu d'accueil et le siège administratif du PNR, qui est ouvert du printemps jusqu'à l'automne, la semaine et les week-ends, et vous avez un verger conservatoire, vous avez une mare pédagogique, vous pouvez aussi trouver de la documentation touristique sur le PNR.
Eh bien, Émilie Renoir Sibler, merci. Je rappelle que vous êtes la chargée de mission culture au parc naturel régional de la montagne de Reims.
Merci beaucoup.
Merci Émilie Renoir-Sibler, merci Gérald Gaillet.
Le 18-19 sur RCF.
18h43 sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardennes en DAB+. Un nouvel invité nous rejoint désormais, Bernard Maloiseau. Il nous présente l'ouverture d'une antenne France-Parkinson à Vitry-les-Reims. Ça va ouvrir mercredi prochain, le tout avec Jean-Pierre.
Bernard Maloiseau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous allez créer un comité local de France Parkinson qui n'existe pas. On va en parler dans un instant. Il y aura ce sujet mercredi 21 février à 14h30 à la salle des fêtes de Vitry-les-Reims, une conférence sur la maladie de Parkinson, plus que méconnue. Alors justement, on va en savoir un peu plus avec vous, Bernard Maloiseau. C'est quoi la maladie de Parkinson ? Beaucoup de nos auditeurs le savent, on entend parler, mais précision encore un peu.
Oui, alors c'est une maladie qui est très étrange. Il y a 60 symptômes qui sont répertoriés dans Parkinson. Le plus connu, ce sont les tremblements. Ce sont aussi des modifications dans la voix, vous l'entendrez peut-être, parce que je ne parle plus comme je le faisais. Donc petit à petit, ces symptômes qui sont différents, on ne les a pas tous à la fois, heureusement, mais on les a tous, l'un après l'autre, au fil des longues années qui sont la suite de la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurodégénérative qui est sur un terme souvent plus de 15 ans. Alors pour certains, ils rencontrent Parkinson comme moi à 70 ans, donc on se dit 70 et 15, bon voilà, on va vivre, on va finir avec. Mais certains le rencontrent beaucoup plus tôt. Et donc on a des personnes de 25, 30, 40 ans, 45, 50 ans. Et pour eux c'est un vrai problème parce qu'au fil du temps, la situation se complique.
Alors évidemment, Bernard Maloiseau, quelques questions simples. Combien y a-t-il de malades dans notre région ?
On considère que dans une population supérieure de plus de 60 ans, les personnes qui ont plus de 60 ans, 2% de la population sont atteintes, le savent ou le savent pas, parce que les symptômes ne sont pas forcément très très explicites, mais ils vont se développer au fil des années. Et on peut considérer qu'en France, cette maladie concerne plus de 250 000 personnes. C'est énorme et elle est en progression constante.
On connaît un certain nombre d'associations, vous allez y revenir, en particulier France Parkinson. Mais dans notre région, il n'y a pas pour l'instant de comité local de France Parkinson. Alors pourquoi créer cette antenne en quelque sorte locale de France Parkinson ?
Il existe dans notre région, toute petite région de Reims, une association qui s'appelle Reims Parkinson et qui regroupe un certain nombre de personnes dont je suis. C'est plutôt une association amicale, des gens qui aiment se retrouver. Une fois par mois, ils se rencontrent, mais qui n'a pas cette vocation plus large qu'à France Parkinson, qui a des moyens beaucoup plus importants et qui est un lien entre le médical, la recherche et le local. Nous serons, quand nous serons créés, un peu le bras armé de France Parkinson pour notre grande région de la Marne, mais aussi de l'Aisne et des Ardennes, qui aujourd'hui n'ont pas non plus de comité.
Quels sont les buts de ce comité ?
Peut-être un des premiers, c'est de faire connaître Parkinson, en disant à toute la population, c'est une drôle de maladie qui a besoin d'être connue, pour que les gens qui en sont atteints ne soient pas considérés comme des personnes étranges. Avoir quelqu'un qui tremble à côté de soi, c'est pas ouf. Cette reconnaissance. Des maladies comme le cancer, bien sûr, qui touchent beaucoup plus de monde et qui sont... Je ne vais pas faire de comparaison entre les deux, mais on en parle. Parkinson, ça reste encore partie des choses pas très connues. Et on a besoin aussi d'être présent par rapport au pouvoir public. On va être, nous, notre petit groupe, représentant auprès des pouvoirs publics pour faire connaître et faire avancer les choses par rapport à tout un tas de projets qui sont possibles avec un comité local.
Avec un comité local, en étant le bras armé, le représentant de France Parkinson France dans notre région, vous allez pouvoir d'ici quelques jours, justement, être plus opérationnel, rendre plus de services, peut-être faire venir des conférences. Vous allez devenir opérationnel progressivement.
Voilà, et c'est bien le but de cette première conférence, c'est on lance l'opération et on veut aussi, à travers ce lancement, faire connaître à ceux qui voudraient s'engager avec nous dans France Parkinson que l'on va pouvoir, en fait, pour les malades. Le comité local, c'est un moyen d'action. C'est un moyen d'être connu, aidé, se regrouper également, parce qu'on a des choses à faire ensemble, ne serait-ce que se soutenir complètement. On a dans le comité la création d'une écoute patient. C'est-à-dire que nous allons avoir un numéro dédié auquel on pourra nous appeler. Et celui qui n'est pas trop en forme, etc., ou qui veut des informations complémentaires, qui ne seront pas des informations médicales, bien sûr. Ça touche toute la sphère de la vie, ces difficultés.
On rappelle, et on va en dire quand même, expliquer un petit peu, cette conférence qui a lieu le mercredi 21 février, c'est à 14h30, c'est à la salle des fêtes de Vitry-les-Reims, et c'est sans doute là que vous allez mettre en place le premier comité local, pour notre région en tout cas, antenne locale de France Parkinson. Alors cette conférence, de qui s'agit-il ? Qui va la tenir ? Comment va se dérouler le programme ? C'est toute l'après-midi de 14h30 à 17h et c'est à la salle des fêtes de Vitry-les-Reims.
Alors nous allons avoir la présence de Madame Doé de Mindreville qui est le médecin expert du centre expert du CHU de Reims. C'est donc la personne la plus compétente en matière de Parkinson.
Dans notre région.
Dans notre région.
C'est la professeure qui suit la question de Parkinson.
Voilà. En fait. Et qui est également, elle, en lien avec France Parkinson, la partie scientifique et médicale de France Parkinson. C'est elle la représentante. Donc ça sera la plus grosse partie. Elle va revenir sur, Parkinson, que c'est et comment...
Qu'est la maladie de Parkinson, voilà. Les symptômes, voilà. La prise en charge. Ça, c'est l'avis médical de le docteur Anne Doé de Mindreville, praticien hospitalier au CHU de Reims. Et puis ensuite, il y aura la phase comité départemental. Alors, et là, vous avez une autre intervenante.
France Parkinson met à disposition des comités locaux, des personnes, des animateurs, qu'on aura la chance d'avoir avec nous, une animatrice qui a comme mission de mettre en place les comités et de les soutenir, qui s'appelle Marie Varlop, qui nous viendra de Paris, qui passera la journée avec nous, qui est la représentante France Parkinson.
Ensemble, le thème de son intervention, vers la création d'un comité départemental Marnais avec France Parkinson. Puis il y aura bien sûr le pot de l'amitié, les gens qui se retrouvent. Alors comment ça va se passer? Qui sont invités? Qui peut venir?
On est ouvert à tout le monde, en sachant que la salle des fêtes de Vitry-les-Reims ne peut contenir que 250 personnes. Mais si on en avait 100, 150, on serait très content. Mais je pense qu'on aura du monde, c'est à peu près sûr. Et avec nous, on va avoir un témoin, c'est-à-dire un délégué, le délégué du département de l'Oise, qui va venir nous dire comment dans son département, comment dans l'Oise, il s'organise pour aider les familles et les patients. Parce que c'est ça notre but, c'est d'apporter le petit truc et puis l'espérance.
C'est justement important que vous soyez là aujourd'hui parce que vous invitez tout le monde, des auditrices, des auditeurs. Dans les familles, ils peuvent être touchés, mais ils ne sont pas directement. Mais ils vont entendre en tout cas un message. Et puis surtout, c'est un événement puisque c'est la création dans le département de la Marne d'une antenne de France Parkinson avec toute l'association nationale et avec les délégués locaux, en particulier celui du département de l'Oise qui va venir vous accompagner. Eh bien écoutez, Bernard Maloiseau, on vous souhaite une bonne conférence mercredi.
Connaissant un petit peu les personnes qui vont intervenir, on sera bien. Et puis il y a le pot de l'amitié à la fin. Hein.
C'est, bah oui, c'est faut pas aussi l'oublier.
Très important.
Merci en tout cas Bernard Maloiseau d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une très belle conférence mercredi et à bientôt sur RCF parce que d'ici quelques temps, vous viendrez nous dire comment ça se passe.
Nous reviendrons au moment du 11 avril qui est la journée mondiale Parkinson.
Merci Bernard Maloiseau et à très bientôt sur RCF.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Sans transition, 18h52, l'agence d'innovation du Grand Est a fêté ses 5 ans et lancé la 6e promotion de son programme d'accélération d'entreprise. Retour sur sa création et ses missions avec Sébastien Moucheron, chargé du développement du réseau de l'innovation, nommé Grand Innov Plus, s'il est en ligne avec Christopher Fausten.
Bonjour Sébastien Moucheron.
Bonjour.
Pourquoi avoir créé une agence d'innovation?
Donc c'est vraiment sous la volonté de la région Grand Est et de la CCI Grand Est qu'en 2018 a été créée une agence d'innovation à l'échelle de cette nouvelle région, hein, puisqu'à l'époque la région Grand Est était, on va dire, nouvellement créée. Et l'idée c'était de pouvoir opérer l'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'innovation sur l'ensemble de ce territoire régional. Et depuis maintenant 2 ans, on a opéré vraiment une transformation vers un accompagnement plus profond des entreprises et des territoires dans leurs projets de transformation. C'est-à-dire qu'à l'aune des différentes crises qu'on a traversées ces derniers temps, on s'est rendu compte évidemment que les entreprises évoluaient dans leurs process industriels, évoluaient avec l'intégration du numérique, évoluaient avec la prise en considération de l'enjeu environnemental, mais aussi de la performance énergétique. Et finalement, ces 3 grands sujets de transformation deviennent un peu la pierre angulaire de notre activité d'accompagnement des entreprises et des territoires.
Alors cette agence d'innovation du Grand Est concerne vraiment toute la région. Où est basée exactement cette agence d'innovation?
Alors effectivement, on couvre l'intégralité de cette région avec des antennes dans la plupart des grandes villes de celle-ci, donc sur Reims, sur Troyes, sur Nancy, Metz, sur Mulhouse, sur Strasbourg et également sur Colmar. Nous avons des agences et des équipes qui accompagnent les acteurs.
Alors, votre activité est assez large. Ciblons certains programmes, Sébastien Moucheron, si vous voulez bien, de l'agence, plus particulier à destination des entreprises, avec des programmes opérationnels très directs. On peut le dire, notamment le Grand Est cybersécurité, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'agence Grand Innov Plus opère un programme, demandé par la région Grand Est, qui est Grand Est Cybersécurité et qui est un centre d'assistance de proximité sur les enjeux de cybersécurité. Donc l'idée, c'est que ça cible les entreprises, PME, ETI, collectivités et associations oui. du Grand Est qui seraient victimes de cyberattaques. Et c'est vraiment un service d'assistance gratuit avec un numéro d'appel non surtaxé, donc que je vais me permettre de partager puisque c'est vraiment un réflexe à avoir en cas de cyberincident. Donc d'appeler le 09 70 51 25 25. Donc je répète 09 70 51 25 25, qui est vraiment le numéro à avoir sous la main en cas de cyberattaque quand on est chef d'entreprise, responsable d'une collectivité ou d'une association dans le Grand Est.
En parallèle, Sébastien Moucheron, Grand Innov a démarré son programme d'accélération baptisé Scalénov il y a 5 ans également. Présentez-nous ce dispositif.
Oui, alors là, on est encore sur un autre périmètre. Effectivement, dans les entreprises, bah, il y a toutes les entreprises TPE, PME, ETI, dont les chefs d'entreprise se reconnaîtront sur vos ondes. Mais oui. Il y a aussi des nouveaux entrants. Donc, quand on parle d'entreprises qui se créent, et notamment qui se créent autour d'enjeux d'innovation. Et donc, on parle ici de start-up. Et la région Grand Est est une des régions qui a décidé le plus d'investir sur cette cible d'entreprise fortement créatrice de valeur, hein, puisque sur de nouveaux marchés, avec des propositions de valeur nouvelles et des innovations à proposer. Et donc a investi dans tout un réseau d'acteurs, donc déjà des incubateurs qui, eux, soutiennent la création d'entreprises innovantes. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un trou dans la raquette, dans le continuum d'accompagnement, en disant bah, « Très bien, on accueille de très beaux créateurs d'entreprises, les entreprises se consolident, réussissent à accéder à un marché ou à créer un nouveau marché sur lequel elles se positionnent, mais elles manquent encore de soutien dans une phase d'accélération commerciale, c'est-à-dire pour vraiment consolider sa position sur le marché et développer l'entreprise et donc les recrutements et donc finalement le développement économique de cette entreprise. Et donc a été décidé de créer ce programme Scalinov, vraiment centré sur l'accélération commerciale et sur comment aller chercher très rapidement le million d'euros de chiffre d'affaires qui peut être, on va dire, une métrique un peu donnée dans le vent, mais qui est vraiment quelque chose économiquement qui démontrait qui, à ce stade de chiffre d'affaires, ça permet de réinvestir dans son entreprise et donc de rester en bonne position sur son marché et donc de se développer. Et donc, notre objectif, c'est que ces entreprises atteignent très rapidement ce million d'euros de chiffre d'affaires avec un programme de soutien par du financement que la région octroie à ces entreprises quand elles sont intégrées dans le programme, par un soutien en conseil sur le développement RH de l'entreprise, sur le développement stratégique de l'entreprise sur ses actions commerciales et par un soutien aussi au recrutement de certains collaborateurs, notamment sur le développement commercial, qui peut être soutenu dans le cadre aussi de ce programme Scalinov.
Sébastien Moucheron, très brièvement, quel retour faites-vous de ce programme et combien d'entreprises sont accompagnées ?
Alors aujourd'hui, c'est un programme qui fonctionne en promotion, donc on sélectionne une quinzaine, voire une vingtaine d'entreprises par an pour intégrer ce programme qui est un programme d'accompagnement au long cours, hein, puisque c'est sur 3 ans, avec vraiment cet objectif de développer l'entreprise. Et donc, avec les 6 promotions aujourd'hui lancées, c'est un peu plus d'une centaine de startups qui sont accompagnées ou ont été accompagnées dans le cadre du programme. C'est déjà des vraies métriques intéressantes. Oui. On constate que les entreprises rentrées dans ce programme multiplient en moyenne par 5 leur chiffre d'affaires. Donc, ont réellement cet effet démultiplicateur en passant dans le programme. Et je peux citer peut-être 2 exemples très récents de la nouvelle promotion qui ont été sélectionnées sur le territoire marnais, notamment avec la société Signe, qui est la première marque à commercialiser des collants ultra-résistants fabriqués 100% en France, avec une vraie logique aussi d'économie circulaire et de durabilité de ces produits. Et une autre société, par exemple, comme Isaac, qui, elle, propose une plateforme innovante de supervision, on va dire, des performances énergétiques pour permettre aux entreprises de piloter, de maîtriser et d'agir sur l'impact de leurs activités et de l'usage de leurs bâtiments. Donc, c'est des solutions très différentes, mais qui se retrouvent finalement dans des phases un peu similaires. C'est besoin de se positionner mieux sur leur marché, besoin d'être accompagné, besoin d'être encore plus connecté.
Eh bien voilà, d'être encore plus connecté, merci. C'est la fin de l'interview avec nos amis de RCF Cœur de Champagne, dont on a coupé la connexion avec les studios parce que le temps presse et dans quelques instants, on va devoir rendre l'antenne. C'est tout le programme de RCF National qui vous accompagne pendant 10 minutes avec l'information. Et puis à 19h12, on est de retour avec nos programmes en local sur RCF France-Ardennes. C'est la méditation qui vous sera proposée. Le temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée, de remercier Thierry Dely qui était à la mise en onde, de remercier Mélissa qui était là. Mélissa, on se retrouve demain 18h10 pour un nouveau magazine régional avec, on l'espère, des bonnes nouvelles du côté du ciel. Vous avez commencé à checker un petit peu ce qui nous attend cette semaine ?
Un peu, et c'est toujours pareil, malheureusement.
Mélissa, on veut du soleil maintenant.
Alors là, Mélissa, va falloir faire un effort.
Hein. Mais c'est pas ma faute.
Bon, on espère vraiment que le temps va aller en s'améliorant. On vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous. On se retrouve demain, 18h10, pour le magazine régional, et dès 7h, avec vos différentes rédactions locales, pour l'information, les programmes de RCF continuent de vous accompagner tout au long de la soirée, tout au long de la nuit.